Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour. At the Happy Hour.
At the Happy Hour. Bonjour à toutes et à tous, midi 30 sur 48 FM, nous sommes aux portes de décembre, mais il fait déjà moins froid rien que de le dire, et oui, car c'est l'heure de votre Happy Hour. Happy Hour qu'on va animer tous les deux, Ludo, salut.
Salut.
L'hiver, le froid, bientôt la neige, mais tout ça pour nos deux invités, ce ne sont pas des excuses, puisqu'ils comptent bien nous faire sortir. Ce sont même des pros en la matière, directrices et directeurs artistiques, tous deux, du Théâtre de Mende pour l'un et de la Genette Verte pour l'autre. Alice Brugeron, Antonin Bory, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va parler avec vous, non pas de saison, mais bien de culture, quoi qu'il sera en fin de compte bien ici question aussi pendant toute cette heure de saison culturelle, comme on l'appelle. D'ailleurs, Antonin et Alice, c'est quoi la meilleure saison pour la culture, d'après vous?
Ça commence par un piège, Alice.
Il n'y a pas de meilleure saison.
Est-ce que vous êtes d'accord, Antonin, avec ça? Il n'y a pas de saison pour la culture?
Il n'y a pas de saison. En même temps, la saison, elle vit toute l'année. C'est une grande saison, c'est une longue saison.
Et vous l'avez ouverte chacun il y a à peu près un petit mois à la Genette Verte et comme au Théâtre de Mende. S'il y a bien une saison qui s'est avérée en tout cas mauvaise pour la culture, c'est celle liée au Covid. On entend pas mal dire aujourd'hui encore que le milieu de la culture en paye toujours les frais. Est-ce que vous, c'est l'impression que vous avez là depuis l'ouverture de cette nouvelle saison 2022-2023?
Alice. Alors en tout cas, à la Genette Verte, là, on sent que les spectateurs et spectatrices sont vraiment revenus. On a fait un très beau début de saison. Là, on a affiché 4 fois complet. Donc, on a vendu aussi beaucoup d'abonnements. On a un nouvel abonnement d'ailleurs cette année pour les enfants. On en a vendu plus d'une trentaine. Donc, on est plutôt contents.
Ce qui est plutôt rassurant.
C'est quoi ce nouvel abonnement pour les enfants?
On a appelé ça la carte loupiote. C'est un abonnement à 15 € pour 3 spectacles au choix. Et en fait, là, on se rend compte que la plupart ont déjà utilisé leurs 3 entrées et vont en racheter pour les prochains spectacles.
Et oui, de notre côté, le constat, il est un peu le même. On a fait une très belle ouverture de saison avec Pic du Surnatural Orchestra et du Cirque in Extremis avec quasiment 1600 personnes sur 3 représentations, donc c'était assez incroyable pour notre ouverture. Cette dynamique, elle est restée sur les dates qu'on suivit, notamment avec Joueurs, de la compagnie Les Maladroits, avec 2 belles salles pleines. Moi ce que je vois malgré tout, c'est un petit changement d'habitude. Il y a une jolie dynamique sur la présence pendant les spectacles. En l'occurrence, il y a très peu de réservations, les gens n'anticipent plus et c'est un peu du dernier moment. On en discutait avec Alice juste avant et c'est voilà, je pense que les gens ont été pendant 2-3 ans confrontés à des annulations de dernière minute et à tout un contexte qui a fait que on
prévoit moins,
en fait. Parfois on transpire un peu en se disant où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on se dirige et est-ce que ce spectacle va marcher ou pas. Résultat, je crois que ce soit pour la Genette ou pour le Théâtre de Mende, ça, pour le moment, ça suit bien.
Alors, ça se voit aussi au niveau du tourisme. Hein. Les gens ne réservent plus à l'avance, réservent 2-3 jours avant. Mmh. Les professionnels du tourisme ont le même problème. Donc c'est drôle que vous retrouviez sur ces habitudes de consommation, entre guillemets, là. Ouais. Mmh.
Et avec ces 2 années de Covid qu'on a traversées, est-ce que là, les spectacles qui ont dû être annulés pendant cette période, il y en a certains qui ont pu être reprogrammés là pour cette saison?
Oui, parce qu'on parlait en plus, pour rebondir sur la question, une double question, on avait peur qu'il y ait embouteillage avec ces 2 années sans spectacle. Qu'en est-il vraiment, vous qui êtes dans la programmation?
Alors, en ce qui concerne la Genette, c'est vrai que nous, on a eu la chance de pouvoir maintenir, enfin nous, en Lozère, de pouvoir maintenir les représentations scolaires pendant la période la plus dure. Donc, on a pu quand même accueillir la plupart des compagnies, qu'on n'a donc pas reporté la saison d'après pour les représentations tout public. Donc, on n'a pas eu tant d'embouteillage que ça. Là, sur cette saison, donc on n'a plus qu'un report. où, pour le coup, l'hiver dernier, on pouvait faire la toute publique, mais pas la scolaire. Donc, bon, après, voilà, les règles avaient changé. Donc, voilà, on a préféré, là, par contre, reporter. C'est un spectacle, c'est le spectacle L'Endormi, de la compagnie Hippolyte à Malocœur, qui serait aussi accueilli à Langogne. Donc en co-accueil avec Seine-Croisée de Lozère, et c'est vrai que là, faire venir la compagnie pour seulement deux représentations scolaires au lieu des cinq représentations prévues, c'était pas très pertinent.
Quelle compagnie tu disais ?
La compagnie Hippolyte à Malocœur.
Et ça, c'est pour
le
quand ?
Le spectacle L'Endormi, donc on accueillera le 11 avril à la Jeunette Verte.
Ok, 11 avril, c'est noté. Antonin, pour toi aussi, même question.
Il y a forcément eu un effet d'embouteillage sur notamment les créations qui sont montées sur 2020-2021. Il y a eu forcément beaucoup de reports. En fait, on arrive là à la troisième saison d'après Covid, la saison 2019-2020, puisque le premier confinement a eu lieu en mars 2020, donc avec les premières annulations, avec certains reports qui ont eu lieu sur la saison d'après, puis à nouveau pas mal d'annulations, donc certains reports qui ont été faits sur... à nouveau sur la saison donc 21-22. Là, on attaque donc la saison 22-23. Nous, il se trouve qu'il y a eu un choix à un moment donné de ne pas reporter certains spectacles, justement pour laisser place aussi aux nouvelles créations. Et même si du coup certaines compagnies en ont un peu pâti parce que forcément leur spectacle a très peu joué, mais oui, il y a beaucoup de compagnies qui se sont retrouvées confrontées à cet entonnoir et à cet embouteillage un peu en termes de création. Voilà, nous aujourd'hui, on est, en tout cas pour cette saison, il n'y a plus de question de report.
D'accord. Ouais. Mais ça c'est bien de ne pas avoir, enfin, c'est bien pas pour les compagnies qui n'ont pas été reprises, de ne pas avoir reporté, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmateurs qui ont gardé ce qui avait été proposé à l'époque et donc reprogrammé, et toutes les dernières créations en ont pâti et pas s'inaperçues, notamment le théâtre un peu moins connu, les grosses têtes d'affiches arrivent toujours à être programmées, les autres non. J'imagine que là actuellement, pour certaines compagnies, notamment amateurs, qui se battent pour se faire programmer, ça doit être très très compliqué. Je sais pas si vous avez des retours de compagnies que vous connaissez qui cherchent à se faire programmer et qui ont vraiment du mal à cause de ça.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans leur parcours, oui, il y a eu des créations qui sont, passées un peu à l'as. Donc aujourd'hui, elles sont à nouveau sur des nouvelles créations, puisque.
Et à ce moment-là, on arrête et on repart sur autre chose. C'est terrible, ça, quand même.
Ouais, complètement.
Vous avez parlé de choix, Antonin, de choix de programmation, puisque c'est un peu votre travail, hein, je crois, de directeur et directrice artistique d'une structure culturelle. C'est bien ça, hein, votre mission première. Combien de temps à l'avance on prépare une telle programmation qui s'étale sur toute l'année ? Il faut des mois, il faut une année entière.
Elle travaille sur 2028-2029, actuellement. Est bouclé d'ici là.
Pas tout à fait, mais oui, c'est sûr que c'est un travail sur du long terme, puisque le repérage se fait. Là, par exemple, j'ai vu cet été des spectacles au Festival d'Avignon que je peux potentiellement programmer au printemps 2024. Donc voilà, c'est sûr que c'est sur du long terme.
Donc pour donner un petit ordre de grandeur, je crois que cette année, vous programmez à la Jeunette Verte à peu près une vingtaine de spectacles et vous, au Théâtre de Mandu, à peu près une trentaine, c'est bien ça ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins.
C'est ça.
Je ne suis pas très experte en comptabilité. Exact, voilà. Donc c'est des spectacles, comme vous l'avez dit, qu'il faut voir en amont. Est-ce que, comment vous faites ces choix-là, en fait ? Il y a du parti pris artistique, vous avez aussi une recherche de représentativité, un peu de la création telle qu'elle se fait actuellement. Comment ça se jauge, tout ça, Antonin ?
Sur le montage d'une programmation, moi, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs directions que je prends, en tout cas. Il y a un choix qui est sur l'esthétique, où on est, nous, sur une pluridisciplinarité, au niveau des esthétiques, que ce soit autour de la danse, des arts de la marionnette, du théâtre, de la musique et bien d'autres. Il y a l'envie de s'adresser à différents publics aussi, donc il y a le choix esthétique passe par là aussi. Et puis moi, je fais un choix... un choix de faire résonance un peu sur toutes les compagnies qu'on programme, de résonance du monde qui nous entoure, de sujets de société. On aborde beaucoup de thématiques et mon travail de programmation passe par là. Et voilà, du coup, pour faire simple, oui, il y a ce travail qui est mené, moi, quand je vais sur des repérages, de qu'est-ce qu'on a envie d'aborder, comment on l'aborde, à travers quelle esthétique aussi. Et voilà, et c'est un peu tout ce mélange qui, à un moment, donne naissance à une programmation.
Mais justement, le choix du... Comme vous êtes tous les deux, vous travaillez pour des structures publiques, le choix de vouloir aussi proposer quelque chose qui soit un peu représentatif, qui s'adresse un peu au plus grand nombre, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas au plus grand nombre. Comment vous, votre choix artistique, le parti pris que vous prenez, à quel niveau il a sa place là-dedans, en fait, vous, en tant que structure publique, j'entends?
Ben pour moi, notre métier fait qu'on est missionné
pour ça. Ouais.
Pour ça. Donc les choix artistiques nous appartiennent. Enfin, en tout cas, je parle en l'occurrence à mon niveau et aux têtes de monde, les choix artistiques m'appartiennent. En l'occurrence, je fais très peu de programmation tout public. J'ai une programmation qui s'adresse à tous à un moment donné.
Pas tout le monde à la fois.
Mais pas tout le monde à la fois. Et chaque spectacle a un peu sa spécificité. Effectivement, on va travailler peut-être sur autour de dates pour le jeune public. Il va y avoir un travail plus sur des formes très engagées ou des formes expérimentales ou des formes un peu atypiques qui vont s'adresser à tel ou tel type de public. On a les sorties opéra qui encore s'adressent à un autre type de public. C'est par contre cet équilibre à essayer de trouver sur une saison entière.
En parlant d'équilibre, on va laisser la parole après à Alice. En parlant d'équilibre, il y a beaucoup d'arts qui sont proposés, pluridisciplinarité, tu l'as dit, que ce soit jeune public, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique. Comment on fait pour trouver cet équilibre? On se dit, bon, on a 30 dates, on va en prendre 3 de théâtre, 3 de danse, 3 de musique, 3 de jeune public. Ça, ou c'est par rapport aux spectacles que l'on voit, aux offres qui nous parviennent, en se disant, cette année, il y a beaucoup de belles pièces de théâtre de rue, je vais programmer ça parce que ça rentre dans ce que je veux, le message que je veux faire passer. Comment ça se passe?
Il y a un peu de tout ça, mais c'est un peu un mélange. Moi, je fonctionne énormément au coup de cœur. Donc, en l'occurrence, un axe qu'on avait beaucoup développé l'année dernière, qui était autour de la danse et qu'on retrouve beaucoup moins cette année. Voilà, c'est un simple constat, mais sur lequel pourtant il faudrait encore qu'on travaille et qu'on continue à développer. Et voilà, mais on rebondira sur la saison d'après. Et en fait, je regarde pas une seule saison, mais je regarde aussi qu'est-ce qu'on développe sur les années qui passent et où est-ce qu'on se dirige, comment, et voilà.
Comment ça se passe à la Genette, Alice?
Alors effectivement, on essaie aussi de trouver un équilibre dans les genres proposés dans cette saison pluridisciplinaire. Mais je rejoins Antonin, effectivement, ça dépend surtout des coups de cœur qu'on a pour les spectacles. Donc à certaines années, il y aura un genre plus représenté qu'un autre. C'est vrai que là, justement, pour en revenir aux années Covid, notre travail de repérage a été un peu mis à mal. Donc, il y a aussi, dans l'idéal, c'est sûr qu'on aime bien voir les spectacles avant de les programmer. Après, il y a quand même une part aussi de confiance faite aux artistes qu'on accompagne dans la création et les compagnies qu'on soutient avec le préachat, donc de spectacles sans les avoir vus, puisque c'est évidemment essentiel pour eux pour pouvoir tourner.
Il y en a beaucoup, ça, de préachat, ou c'est quand même rare? J'imagine que ce n'est pas beaucoup de spectacles sans avoir vu. C'est compliqué, quand même, même si on fait confiance.
C'est compliqué, mais nécessaire. Donc, il y en a environ 2-3 par saison.
2-3 par saison.
Ouais, je pense qu'on est un peu dans ce même ordre d'idée. Je prends l'exemple de dernière date avec le spectacle Joueur de la Compagnie des Maladroits. On était sur l'accompagnement de la, enfin sur le suivi, l'accompagnement de la compagnie sur un triptyque et donc on avait accueilli Frères en 2018, on avait accueilli Camarades en 2020. En l'occurrence, on s'était à la sortie de Camarades déjà engagé sur leur prochaine création pour aller au bout du triptyque. Oui. Et donc c'est donc sous forme de préachat, comme expliquait Alice. Et donc oui, ça arrive. Et je rejoins aussi Alice sur le côté essentiel de. On a une part de prise de risque aussi sur l'accompagnement à la création comme ça, sur du préachat, mais c'est essentiel. Oui. C'est essentiel et voilà. Et on sait avec qui on fait, on sait avec quelle compagnie on se permet ça et voilà.
Et est-ce qu'entre vos deux structures, vous n'êtes pas basés au même endroit, certes, mais est-ce qu'il y a une espèce de collaboration? Parce que j'imagine bien que vous n'êtes pas en concurrence, plutôt complémentaire. Mais comment ça vous pouvez le faire en sorte que ça se passe comme ça, de manière complémentaire? Vous n'êtes pas programmer les mêmes spectacles? Est-ce que...
Alors, oui, il y a un travail là-dessus. En tout cas, il y a un regard sur les dates, sur certaines dates un peu clés. Et parce qu'on sait que le public en Lozère se déplace, il n'y a pas un public, il n'y a pas le public du Théâtre de Mende, il n'y a pas le public de la Jeunette Verte, il y a des publics en Lozère et qui se déplacent beaucoup. Donc potentiellement on va toucher des mêmes personnes selon les spectacles. Donc on essaye d'avoir un peu un regard entre structures et notamment sur les dates. Il y a des compagnies qu'on accompagne sans forcément se mettre autour de la table ensemble, mais malgré tout, finalement, à se retrouver à les soutenir ensemble. Je prends l'exemple de la compagnie Faux Mouvement cette année qui a à la fois fait un travail de création à la Jeunette Verte, qui va venir à Mende, donc qui est accompagnée par ces deux structures.
Mais ces joueurs que tu allais voir, Alice, justement. Non.
Ah oui, moi la compagnie Les Maladroits est une de mes compagnies favorites. J'avais accueilli Frère et voilà, c'était un spectacle vraiment jubilatoire.
Même au-delà de ça, j'imagine que vous discutez souvent entre vous après les festivals d'Avignon ou autres pour savoir qu'est-ce que chacun a vu, qu'est-ce qui pourrait aller à l'un ou plutôt à l'autre. J'imagine que c'est quand même un monde.
Là, la question s'est posée. Alors, je prends l'exemple de la date qui arrive pour Alice ce samedi. À la Jeunette Verte qui est face ici, spectacle de danse, très beau spectacle de danse que j'ai aussi eu l'occasion de découvrir à Avignon et à un moment donné, la réflexion va se poser en se disant on va pas accueillir la même forme à la Jeunette Verte au Théâtre de Mende, toujours pour une question de public et que bien évidemment que c'était la belle forme aussi pour le plateau de la Jeunette Verte et donc dans ce cas-là on se dit ok.
Du coup tu vas aller le voir le spectacle.
Et du coup, je l'ai déjà vu. Donc,
Oui, tu l'as vu à Avignon, tu l'as dit. Vous cochez les dates des autres saisons culturelles en se disant, tiens, ça, je vais aller le voir, je ne l'ai pas vu. Regardez un peu, j'imagine, oui.
Oui.
Ouais.
Bien sûr.
Non, mais
s'intéresser à ce que les autres structures en Lozère font, c'est hyper important. Alice était à joueur à Mende dernièrement. J'étais sur... Je brûle d'être toi à Langogne vendredi dernier. Enfin, il y a chaque programmateur circule un peu en Lozère aussi s'intéresser à ce que font les autres et que c'est important.
Avant la petite pause musicale, je voulais déjà vous demander aussi le thème que vous avez choisi pour cette saison culturelle chacun. Au Théâtre de Mende,
est-ce qu'on construit une saison culturelle avec un thème, avec un fil rouge ou pas, comme vous disiez, c'est finalement des coups de cœur où on se rattache à quelque chose?
Alors nous, on a travaillé sur un fil rouge un peu en pointillé, j'ai envie de dire, mais autour de la notion de l'écologie et notamment de la catastrophe écologique et puis de tout ce qui est de tout le lien et le rapport entre l'homme et la nature. Si je tire un peu les traits, il y a plein de propositions artistiques qui rejoignent un peu cette thématique, en l'occurrence Femme Fatale qu'on accueille ce vendredi au théâtre, donc du metteur en scène Philippe Ken, qu'on raccroche aussi avec un film documentaire qu'on propose ce soir à la salle Urbain 5 sur Être en transition, un film documentaire sur François Stuck, et puis tout un travail aussi, et c'est ce que vous pouvez retrouver à travers notre visuel de saison, qui est une photographe, Ilka Kramer, qu'on va accueillir aussi sur un grand temps d'exposition début d'année 2023, qui avec différentes photographies, qui travaille justement ce rapport de l'homme et la nature. Et puis il y a différents rendez-vous. Là, on part comme sur la clôture, on part explorer les forêts aux alentours de Mende et avec la création Plateau 9, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Mais il y a voilà, il y a plein de choses qui, même à travers le jeune public ou le spectacle Terreur au feu, qui questionne autour des quatre éléments. Enfin, il y a, voilà, on essaye de faire tout un travail, nous, cette année, autour de ça. L'année dernière, on était plutôt sur les questions d'exil. Voilà, chaque année, il y a un travail un peu qui est mené sur un sujet de société précise. Notamment. Et, ouais, exactement.
Il y a un bel article du Monde d'il y a 3 semaines sur le spectacle vivant et l'écologie. C'est, c'est vraiment dans l'air du temps, de tendance. Alice, pareil, il y a un thème pour la jeunette ou pas?
Alors non, il n'y a pas vraiment de thème. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce sont plutôt des coups de cœur que je programme, et je me rends compte après qu'il y a des liens, mais sans l'avoir forcément souhaité. Après, oui, la plupart des spectacles traitent quand même de sujets de société, de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres. Mais ça peut aussi être des sujets historiques. Là, cette année, on a par exemple accueilli Cousin Pierre de la compagnie Volpinex, qui parlait d'une histoire vraie de l'homme qui a été nommé conservateur du château de Versailles au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fin de saison, on accueille Les Pieds Tanqués, un spectacle qui parle de la guerre d'Algérie, mais autour d'une partie de pétanque. Donc en fait, voilà, ce qui relie surtout les spectacles de la programmation, c'est le talent des artistes et leur capacité à nous parler de sujets plus ou moins forts, parfois difficiles. Hein. Je parlais de L'Endormi tout à l'heure, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans le coma suite à une bagarre en Provence. Donc voilà, c'est la volonté de parler de tous les sujets et surtout de créer l'échange.
Et c'est vrai que comme les artistes sont des éponges qui ressortent un peu ce qu'ils vivent dans le quotidien, il doit y avoir des thèmes chaque année qui reviennent par rapport à l'actualité que chacun vit, comme l'écologie, qui tient une place importante. Sauf la Coupe du Monde.
Nous n'en parlerons pas, je propose de tout de suite lancer une petite musique. On se retrouve tout de suite après.
She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. Less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Round the back.
Vous écoutez 48 FM, nous sommes en pleine happy hour, on remet encore une tournée avec nos deux invités du jour, Antonin Bory et Alice Brugeron. Antonin, Alice, vous travaillez, on l'a dit tout à l'heure, tous les deux au sein d'une structure publique. C'est quoi la différence avec un établissement privé, si au moins ça a encore lieu d'être de distinguer ce deux types d'établissements ? Alice, on te tend la main, je vois.
Je dirais peut-être la différence au niveau économique. C'est sûr que nous, on n'est pas vraiment dans la recherche de l'équilibre budgétaire entre les recettes et les dépenses. De toute façon, on ne pourrait pas avec une jauge de 270 places. Il faudrait qu'on mette les billets à 80 euros. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une logique financière comme ça peut l'être dans le privé. Voilà, là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une politique tarifaire qui est cohérente par rapport au territoire et pour toucher le plus grand nombre.
En parlant de politique tarifaire, vous proposez d'ailleurs chacun plusieurs tarifs, tarifs réduits, tarifs, il y a des abonnements, vous en avez parlé aussi. Ça, pareil, comment ça s'établit, ces prix vous...
Ouais, il y a plusieurs choses. Les prix se réfléchissent en fonction, ça peut se réfléchir en fonction du spectacle, de la forme accueillie, qui parfois est très lourde. Donc financièrement, il faut à un moment donné pouvoir absorber ses coûts et donc ça se répercute forcément un peu dans la billetterie. Après, il y a des politiques tarifaires différentes, que ce soit entre la Jeunette Verte ou le Théâtre de Mende, où on n'est pas forcément sur les mêmes politiques tarifaires, mais ça, il y a des choix aussi derrière politique. Il y a des choix politiques. Je prends l'exemple de... Enfin, là, nous, il y a eu une vraie volonté, notamment, de donner un accès très privilégié à la jeunesse, et notamment aux étudiants et à toute la tranche d'âge en dessous sur les moins de 26 ans, et avec un tarif unique, quel que soit le spectacle, à 10 euros, et où on a aussi... pousser un peu le curseur avec des partenariats avec le CROUS de Montpellier notamment via la plateforme Youth qui permet aujourd'hui aux étudiants en demande de bénéficier de places à 5 euros. Bref, il y a des choix divers et variés en fonction de la structure. Mais je crois que globalement, et là je peux un peu mettre l'ensemble des acteurs culturels de la Lozère d'accord là-dessus, c'est qu'il y a vraiment quand même un accès... une volonté tarifaire de relativement basse et on est globalement sur des petits prix.
Tu parlais des jeunes là, on arrive à les faire venir les jeunes au spectacle vivant? Et c'est compliqué.
On y arrive sur les choix de programmation et selon ce qu'on propose, il faut de longue aller les chercher. On mène aussi tout un gros travail de médiation. Un peu souterrain mais qui portait fruit. Aujourd'hui il y a 2 ans on avait fait une étude un peu sur nos publics. On est à pas loin de 30% de jeunes de moins de 26 ans qui fréquentent
c'est énorme,
donc c'est pas rien et on pousse aussi les projets autour de dédiés à la jeunesse et voilà, nous c'est en tout cas une ligne qu'on a voulu vraiment fixer et avancer là-dedans.
Il y a aussi, je crois, ça fait partie de vos missions, la fameuse éducation artistique et culturelle. Donc ça se traduit à travers des partenariats avec les écoles, les scolaires. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes que vous rencontrez dans ces cadres-là, ça les amène après, donc à la fois à aller voir des spectacles, mais aussi à pratiquer eux-mêmes des activités?
C'est ce qu'on espère, en tout cas.
Ça, vous n'arrivez pas à l'évaluer de manière précise?
Alors nous, en tout cas, à la Jeunette Verte, à Florac, c'est un territoire un peu particulier, puisque pour le coup, il n'y a pas de lycée. Donc nous, les jeunes, à partir de 14-15 ans, ils ne sont plus trop là. Et pour la suite non plus, pour les études supérieures, à part Supagro, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on est plutôt sur un public familial et enfant, donc plutôt... plutôt même avant l'adolescence. Et là, notamment, samedi dernier, on a accueilli un spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois. Donc voilà, ce sont les spectateurs et spectatrices de demain, on espère. Après, je pense qu'il y a quand même un moment dans l'adolescence où peut-être qu'on les perd un peu, mais c'est jamais perdu ce qu'ils auront vu et vécu avant.
Il n'y a pas... Oui, vas-y, Antonin.
Non, mais c'était pour rebondir. Effectivement, Flora, qui a la particularité de ne pas avoir de... Enfin, passer le collège, les jeunes... soit descendent sur Alès, soit montent sur Mende. Et il se trouve que, en tout cas, nous, pourquoi le focus sur un peu les ados et jeunes adultes, c'est aussi parce qu'il y a Mende est un peu le cœur en termes de lycée et des études supérieures. En
fait,
il y a plus de 1000 étudiants sur la ville de Mende post-bac, entre BTS ou l'IUFM, l'IUP, etc., etc. Donc pour nous c'était d'une évidence qu'il y avait un travail à faire vraiment là-dessus et voilà, mais c'était juste pour rebondir un peu sur forcément chaque territoire a un peu sa spécificité et que voilà.
Donc nous on commence et puis après ils viennent à Mende.
Et après ils viennent à Mende, voilà. Toi tu les prépares, tu leur apprends à voir des spectacles et ils viennent à Mende. Ouais, non mais 26% c'est énorme, je ne m'attendais pas autant. C'est très intéressant.
Et est-ce qu'il s'agit aussi peut-être à la fois pour attirer peut-être le public plus jeune qui peut être désintéressé de ce qui se passe sur les petits territoires et qui a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les grandes villes. Est-ce qu'il s'agit aussi pour vous d'essayer d'offrir quelque chose qui rivalise en tout cas avec ce qui est programmé dans les plus grandes villes, dans un territoire rural comme la Lozère ? Est-ce qu'il y a cette réflexion ?
Mais les grandes villes rêvent des programmations qui sont menées en Lozère, quoi. Donc c'est plutôt l'inverse.
C'est vous qui dites ça.
J'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il y a une offre qui est effectivement on est beaucoup moins nous en Lozère dans les notions de grosses têtes d'affiche et l'offre elle y est ailleurs.
Donc c'est comme ça que vous vous démarquez, vous, c'est justement
sur autre chose.
Alors pardon, je il y a une trentaine de compagnies locales en Lozère, hein, je crois. Est-ce qu'on peut vous parleriez-vous d'un vivier culturel pour ce département ?
Oui, bien sûr, oui. Et puis il y en a de plus en plus. Je crois que le Covid aussi a ramené pas mal de nouvelles compagnies qui sont installées donc en milieu rural. Alors après, il y a quand même malheureusement, la difficulté d'ensuite sortir du territoire de la Lozère pour diffuser leur spectacle ailleurs, puisque nous, autant Antonin que moi, on se déplace un peu partout en France pour voir des spectacles, autant il y a très peu d'autres pros qui viennent en Lozère voir des productions ici. Donc c'est vrai qu'autant les conditions, je pense, en Lozère sont assez idéales pour créer. Mais malheureusement, pour la suite, c'est
pour
pas forcément évident.
Pour se vendre, c'est
évident.
Plus compliqué.
Voilà.
Mais il faut aller à Avignon, au OFF, etc. J'imagine, Aurillac, ce que doit faire les compagnies lozériennes.
Après, il y a un vrai... Excuse-moi,
vas-y.
Je te coupe, mais parce qu'Alice soulevait la partie création en Lozère. Et quand on parle des compagnies, il y a quand même une structuration, je trouve, en Lozère, à travers les différents lieux... On peut partir de Marvejol, Florac, Le Blémard, Langogne, Saint-Chély, Mende, etc., où il y a un véritable accompagnement de toutes les structures sur la création et sur l'accompagnement d'artistes. Et avec en partie, donc pas seulement des compagnies de l'extérieur, mais aussi un accompagnement de certaines compagnies en Lozère. Il faut le soulever parce que c'est quelque chose qui avec la particularité de chaque lieu et de leur volonté, enfin de leur choix artistique, mais aussi de leur capacité d'accueillir, il y a un vrai travail qui est mené de fond là-dessus.
Alors justement, tu le soulèves, Alice, quelle est votre politique, vous, en matière de résidence d'artistes, que ce soit des artistes locaux ou pas, hein, ou de l'extérieur ? Faites beaucoup de résidences d'artistes, comment ça se passe un peu ?
Oui, donc on accueille là cette année par exemple la compagnie Faux Mouvement dont parlait Antonin tout à l'heure, donc c'est une compagnie pour le coup basée en Lozère. Donc là on l'accompagne donc en l'accueillant en résidence sur trois périodes d'une semaine de travail, donc au plateau, donc avec la mise à disposition du matériel nécessaire, du régisseur technique du lieu si besoin, et puis donc avec un apport en coproduction. Et donc le préachat d'au moins deux représentations sur la saison prochaine.
Le fait d'avoir des problèmes après pour se faire programmer en étant en Lozère, est-ce que c'est pas un frein pour des compagnies extérieures qui aimeraient venir en Lozère en se disant mais c'est parfait pour créer, la vie est moins chère qu'ailleurs, c'est un cadre de vie exceptionnel, j'aimerais venir, et après de se dire ouais mais pour me faire programmer en extérieur ça va être compliqué donc je viens pas.
Je suis pas sûre qu'ils en aient conscience forcément avant de
venir. D'accord. Ah donc on leur dit pas et on les fait venir.
Non, bah après on. Je suis pas sûre qu'on les force à venir, hein. Les gens viennent de leur plein gré. Après, s'ils gardent des contacts dans d'autres régions, voilà, ça leur permettra quand même de s'en sortir.
Les résidences d'artistes pour la saison culturelle, il y a combien d'artistes, hein, qui viennent ou de compagnies en résidence pendant l'année? Est-ce qu'on peut le chiffrer ou pas?
Ça dépend des projets qu'on a envie d'accompagner. Ça dépend du donc il y a pas de règle là-dessus.
Parce que vous avez des artistes associés, hein?
Non,
pas comme les scènes croisées. Je croyais que vous aviez
un moment. Non, on accompagne vraiment les projets et
ouais, c'est les projets.
Et pas forcément les artistes dans tout leur processus de création. Voilà, et c'est selon les projets qui nous sont présentés, selon les compagnies qu'on a envie de soutenir, d'accompagner. Et voilà, mais ça peut aller de 2-3 projets de résidence à une dizaine, selon les années, ça dépend. Ça dépend, et on est un peu dans le même schéma. Ça va être de la mise à disposition d'un lieu, ça va être de l'accompagnement avec de la part en coproduction pour leur projet, enfin pour leur budget de production, pour la création du spectacle. Ça peut être du préachat, ça peut être voilà, il n'y a pas de pareil. C'est un peu en fonction des projets, des besoins et on voilà.
Et on voit souvent aussi d'ailleurs dans les programmations des deux, hein, de la Jeunette Verte et aussi du Théâtre de Mende, qu'il y a des spectacles proposés avec les scènes croisées. Alors moi je suis pas d'ici, je tiens à le préciser, donc c'est peut-être pour ça que ça me questionne, et ça peut-être questionner moins d'autres plus habitués. Mais ça veut dire quoi en fait ces partenariats avec les scènes croisées? Ça veut dire que c'est des financements qui sont partagés entre les différentes structures?
Voilà, tout à fait, ce sont des co-accueils, donc vraiment on partage les dépenses et les recettes à 50-50. Donc quand on parlait oui de la façon dont les saisons se construisent, ça se fait aussi avec des partenaires. Donc là, en l'occurrence, nous cette année, on a 5 partenariats avec Scène Croisée. On en a aussi un avec la Fédération départementale des foyers ruraux. Donc on accueillera la clôture du festival Contes et Rencontres. On est aussi en partenariat avec la Nouvelle Dimension et le festival du cinéma québécois, donc Vue du Québec, au mois d'avril. Donc c'est le moment d'accueillir aussi un groupe de musique québécois. Donc voilà, on ne fait pas tout seul.
Parce que l'idée aussi, c'est de faire travailler finalement tous les acteurs, associatifs ou non, sur ces programmations culturelles à l'année.
Bon, en tout cas, c'est de travailler en synergie ensemble. C'est un peu l'idée. Et pour rebondir avec les scènes croisées, c'est les scènes croisées, mais je pense que les auditeurs de 48FM connaissent un peu, même bien. Mais les scènes croisées, c'est un lieu conventionné qui a la particularité de ne pas avoir de lieu et qui travaille à l'échelle du département et qui du coup se doit de travailler avec des acteurs culturels sur chaque territoire. D'où les partenariats avec la Jeunette Verte, avec le Théâtre de Mende et avec l'ensemble des acteurs culturels. Voilà. Et ensuite, nous, bien évidemment, qu'il y a un partenariat qui est financier, mais il y a un partenariat aussi qui est sur l'artistique et de qu'est-ce qu'on a envie de défendre ensemble, quelle ligne directive on a ensemble. Et voilà, nous, en l'occurrence, justement, il y a tout ce travail autour des ados, notamment qu'on mène ensemble ou sur des formes beaucoup plus atypiques ou voilà, sur des projets un peu plus particuliers qu'on a envie de défendre ensemble auprès du public.
Alice, tu parlais d'un concert de musique québécoise qui va venir avec la Nouvelle Dimension, hein, ce très beau festival Vue du Québec. Il n'y a pas trop de concerts dans vos programmations respectives. Pourquoi? C'est compliqué de programmer? Les artistes musicaux sont vite très chers ou c'est quoi le problème avec la musique? S'il y a un problème. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concerts, mais pas que chez vous, hein, quand on regarde toutes les saisons culturelles, que ce soit aussi sur Saint-Chély, au Ciné-Théâtre, que ce soit à Marvejols, maintenant qui commence à créer une saison culturelle, etc. Il y a très peu de musique finalement. Pourquoi?
Alors moi j'ai envie de dire, donc pas toutes les saisons, parce que je prends l'exemple de Langogne, pousse un peu justement le volet musique.
C'est vrai. Il y a encore, durant l'année, il y a un gros concert au milieu de l'année, monte le son automne aussi, de mégaphone. Mais il y en a pas, enfin, il y a moins de musique que de spectacle, quoi, que de théâtre.
Ouais, j'ai pas de réponse sur les esthétiques. C'est encore une fois, tout dépend des saisons. Et il y a eu des saisons où on a poussé le curseur de la musique et où on avait beaucoup de projets de concerts notamment, et avec les fameux Monte le Sonotone, avec d'autres rendez-vous. Là, moi, si je prends l'exemple de cette saison en cours, on a eu notre ouverture de saison avec le Surnatural Orchestra, qui est quand même un...
Il y a de la musique, mais c'est pas
alors c'est pas un concert en mode debout, ouais. mais ça reste aussi un concert, c'est un spectacle, oui. Mais concert aussi.
C'est vrai.
On accueille alors dans un registre un peu plus un peu moins connu, un plateau de scène locale, notamment avec Unspeakable et Chaton sur du post-punk. Donc qui est au programme. On accueille un grand concert de musique classique avec l'orchestre de Montpellier.
Il y a eu Peace and Lobe, mais ça c'est pédagogique pour les élèves.
Voilà. Après, effectivement, on a moins de concerts en tout cas cette année en mode de concert debout, et comme juste quand même un petit clin d'œil, on a clôturé la saison dernière avec un concert de meute en plein centre-ville de Mende, et donc la musique n'est pas totalement inexistante, voilà. Mais je suis d'accord qu'elle est pas assez présente, et voilà. C'est un constat. Mais non, qu'il y a un travail à faire là-dessus, et qu'il faut...
Il va falloir faire mieux que Meute cette année.
Il va falloir faire
qu'on se débrouille.
On est sur autre chose.
Hein? On est sur autre chose quand même, c'est bien ça. On aura une primeur avant la fin de l'émission. Alice, pareil, c'est compliqué de programmer des artistes musicaux, ou ce que, voilà, t'as pas la sensibilité pour, ton public non plus, donc c'est le... Ça ne matche pas.
Après, j'ai l'impression quand même que pour la musique, les gens aiment bien venir voir des gens connus.
C'est vrai. Non, mais tu as raison.
Et donc là, on en revient quand même...
Au coup.
Au coup. C'est vrai que peut-être qu'autant sur les autres esthétiques, ils vont venir sans forcément connaître les compagnies. Et c'est vrai que pour la musique, ils aiment bien avoir une idée...
C'est vrai que ça se vérifie sur Mende aussi. Hein. C'est les têtes d'affiche, les grands noms qui amènent du monde, et après c'est très difficile.
Oui, après il faut regarder aussi, parce que là on parle des saisons, mais il faut regarder la complémentarité avec tout ce qui se passe en Lozère, et notamment
ça,
avec
l'été.
Tous les festivals. Mmh. Avec on peut parler, enfin sans tous les nommer, mais le Festivalier, le Festival d'Olt, Chanac, des Tours du Monde, et en fait toute la période estivale est beaucoup plus ciblée musique que le reste de l'année, où à un moment donné on pourrait se dire, si on continue sur de la musique toute l'année, à quel endroit on laisse de la place pour de la danse, pour du théâtre, pour de la marionnette, pour en espace public, enfin pour plein de choses, et donc il faut juste regarder un peu cet équilibre. Moi je prends l'exemple sur Mende, il y a aussi toute une programmation musique qui se fait, qui n'est pas portée forcément par le théâtre de Mende, mais par d'autres assos, d'autres structures, que ce soit des afterwork, comme je te pousse, que ce soit par l'ALPA à travers son festival au mois de d'octobre, l'offre pour moi elle y est, peut-être pas suffisamment tout au long de l'année, et peut-être trop condensée sur quelques mois, mais elle y est.
Mais bon, quand vous aurez les Red Hot Chili Peppers cette année sur l'aérodrome, eh ben on n'en parlera plus. Alice, tu voulais dire quelque chose ?
Non, on accueille quand même deux concerts.
Mais donne-nous le deuxième alors, parce qu'on était sur le groupe québécois.
Voilà, donc les Québécois, donc au mois d'avril, donc c'est de la chanson folk. Et Edgar Cecloca, qui se définit en genre hip-hop coloré. Bon, c'est un peu entre... du slam et du hip-hop, donc on accueille le 17 mars.
Poète urbain qui a fait ses premières armes aux côtés de Gaël Faye.
Voilà.
Bonne école.
Quand même. Mmh. Et puis on accueille aussi des spectacles qui mêlent les esthétiques. Donc on avait accueilli Un contre un en ouverture de saison, qui était cirque et musique live. Il y avait quand même un quatuor à cordes présent sur scène, donc on n'oublie pas la musique.
Puisque vous êtes lancé, je propose qu'on termine. Là, il nous reste un petit quart d'heure encore de parler des prochains spectacles qui nous attendent ces prochains jours. Donc, on va continuer avec toi, Alice, à la Genette Verte. Donc, il y a le spectacle Facéci qui va se jouer ce samedi. Donc, c'est proposé par les frères Benahim. C'est de la danse. Tu peux en dire deux, trois mots, peut-être ?
Alors, oui, c'est de la danse contemporaine drôle. C'est vraiment un spectacle qui traite de l'absurdité. En fait, les chorégraphes, donc les Christian et François Benaïm, se sont attelés à ce sujet de la bizarrerie. Et donc, en fait, il y a sur scène 6 danseurs et danseuses assez exceptionnels. Ils ont chacun leur style et donc ils jouent sur des décentrages, des décalages, qui créent des situations assez cocasses. Pour parler de l'aberration du monde, mais vraiment avec beaucoup d'humour.
Il faut réserver, il y a encore de la place.
Oui, s'il vous plaît, on vous a dit tout à l'heure que...
On dit qu'il y en a marre au dernier moment, là.
Ça nous inquiète toujours. Donc bon, pour l'instant, effectivement, on partait toujours à 40 réservations en début de semaine et finalement finissait à 250. Donc j'espère qu'on restera sur ce schéma-là. Mais voilà, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer.
Spectacle qui sera aussi accompagné, avant ce samedi, ce spectacle, il y aura un atelier de danse également proposé par la compagnie des frères Benaïm. Donc ça, ce sera le dernier spectacle prévu pour l'année 2022. Oui. Et le prochain, le tout premier de l'année 2023, quel est-il ? C'est un peu de rap, je crois, ou de slam ?
Non.
Non, pas du tout.
Non, sinon elle aurait dit tout à l'heure dans ses concerts, elle aurait dit il y a aussi du slam et du rap, Clara, voyons.
Oui, question de mots en tout cas.
Non, on démarre très vite après les vacances de Noël avec le spectacle Mot Premier de la compagnie AK Entrepôt. Donc, le samedi 7 janvier à 10h, un spectacle pour les petits à partir de 3 ans. Un spectacle qui mêle théâtre et danse en fait. C'est un danseur de hip-hop et un comédien qui joue deux jeunes enfants en fait qui ont chacun leur langage. Donc il y en a un qui danse, l'autre qui parle, plusieurs langues différentes. Et donc ça traite vraiment de ce moment du début de l'enfance où on cherche à entrer en contact avec l'autre et chacun par ses propres moyens. Et donc, parfois, ça fonctionne, mais parfois, ça se heurte. C'est pas forcément si simple d'aller vers l'autre.
Je t'ai vu hocher de la tête quand elle a dit « AK Entrepôt ». Tu connais Antonin ? Tu l'as vu ?
Alors, j'ai pas vu cette création, mais je connais la compagnie, oui.
Donc, spectacle dès combien ?
À partir de 3 ans.
À partir de 3 ans. Au théâtre Demande, le tout prochain, ça va être là ce vendredi. Donc c'est Farm Fatale.
Alors vendredi 2 décembre, parce que comme l'émission est rediffusée, il vaut mieux préciser
vendredi
la date.
Vendredi 2 décembre, exactement.
S'ils écoutent la semaine prochaine, ils vont y aller et ils ne seront pas bien.
Et alors même avant ça, ce soir, donc du coup le 29 novembre.
Ce 29 novembre.
Oui, on accueille donc le réalisateur François Stuck pour son film documentaire Être en transition, Le vivant nous questionne. Sur un documentaire qui pose la question de la transition vers une société durable, soucieuse de justice sociale. Et c'est un documentaire qu'on vous invite vraiment à venir découvrir. C'est à la Salle Urbain 5, l'entrée est libre.
À 20h15,
en partenariat avec le Ciné-Club Mandois. Le Ciné-Club Mandois qui fait partie de nos nombreux partenaires, l'un de nos nombreux partenaires, puisque du coup il y a vraiment l'envie de travailler ensemble. Donc je réinsiste un peu là-dessus, mais c'est important parce que c'est ensemble qu'on arrive à mener l'ensemble de ces projets. Et donc ce vendredi 2 décembre, Femme Fatale, qui est l'une des dernières créations de Philippe Ken, qui est un grand metteur en scène, scénographe aussi, et qui nous plonge dans un univers un peu post-apocalyptique. On retrouve 5 créatures à la croisée de l'homme, de la marionnette et de l'épouvantail, et qui décide à un moment donné, puisque les fermes ont disparu, les oiseaux ont disparu, beaucoup de choses ont disparu, et donc les épouvantails se retrouvent de fait un peu au chômage et décident de recréer eux-mêmes une société et de monter une sorte de radio pirate avec un groupe de musique et nous embarquent un peu dans leur univers à la fois poétique, philosophique et plein d'autres choses. Et c'est une équipe notamment allemande qui est absolument génialissime.
C'est dès 12 ans parce que les masques font un peu peur.
Les masques peuvent faire un peu peur, ouais. Mais en fait ils sont quand même drôles. Et voilà, le spectacle en anglais, surtitré, bien évidemment, en français.
Nous sommes les abeilles de l'invisible, Rainer Maria Rilke, ce grand poète que j'adore.
Et c'est aussi un spectacle qui va être accompagné d'un stage donc sur le théâtre et la manipulation des images, voilà.
Ouais, en lien. Alors, il se trouve que ce stage est reporté pour le mois d'avril. Mais donc oui, c'est un stage qui est dédié aux ados, qu'on reporte pour plein de raisons, mais en tout cas qui aura lieu dans le cadre de cette saison. Et voilà, qui est aussi un lien donc qui est porté par la compagnie L'Hiver Nu, et un lien avec toutes ces questions aussi d'écologie, mais qu'on retrouvera un peu plus tard dans la saison.
Tiens, en parlant de L'Hiver Nu et par rapport à votre prochain spectacle Bruit Blanc, dans le cadre de Bruit Blanc, on va entendre l'atelier théâtre de L'Hiver Nu qui va nous proposer des scénettes sur les ondes de 48FM à partir de la semaine prochaine. On reviendra dessus, vous en parlez, ils vont venir enregistrer ce jeudi. Voilà, on fait un partenariat aussi avec L'Hiver Nu sur la radio pour entendre ça. Rêve accaparé, on va peut-être pas parler du festival Bruit Blanc, c'est...
Juste quand même un tout petit mot parce que je parlais de partenariat et avec le Ciné-Club Mandois. Là, il se trouve qu'il y a eu la volonté à travers Bruit Blanc de se réunir à plusieurs acteurs culturels, donc les scènes croisées, la fabrique théâtrale du Viala et le théâtre Alto La Douche par le biais de Rootboy Crew, de travailler ensemble sur ce festival qui est le festival Bruit Blanc, porté artistiquement par la compagnie D'Autres Cordes, notamment par Franck Vigroux. Et d'être un peu sur ces musiques exploratoires, en tout cas sur des formes un peu atypiques. Il y a tout un travail aussi autour de la littérature et de rencontres entre des auteurs et des musiciens, donc qui vont donner naissance à des créations qui auront lieu au Viala. Il y a nous du coup le spectacle Rêve accaparé qui est proposé sur Mande, et puis la veille un rendez-vous aussi au théâtre à Bagnoles-les-Bains. Et voilà, donc c'est tout un parcours dont on invite vraiment le public à venir découvrir et se laisser porter par tout ça, parce que c'est des choses qui d'un premier regard ne sont pas des choses évidentes, et pourtant dès qu'on y est, ben on se laisse bien embarquer dans tous ces différents univers portés par les artistes qui seront présents sur ce festival.
Il y a de la musique encore.
Et il y a de la musique. On est encore
En fait, c'est que de la musique. Pas possible, ça. Sinon, la part du spectacle vivant dans la saison culturelle de la vie de Mande.
Antonin Bory, Alice Brugeron, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui sur ce plateau 48FM Happy Hour. Donc vous êtes tous les deux, je le rappelle, directeur et directrice artistique de la Jeunette Verte pour vous, Alice Brugeron, et du Théâtre de Mande pour vous, Antonin Bory. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs et auditrices, toute la programmation des deux structures sur leur page Facebook, sur leur site internet. On vous laisse vous débrouiller avec les outils numériques. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Merci également, Ludo, à toi.
Merci, Clara.
Et puis, très bonne journée.
Et à la vôtre.
Merci beaucoup.
Merci.